blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Marlène Maurice, on se retrouve dans le miraculeux jardin de la Fondation Janada pour évoquer ce livre escarpé. Alors, il se passe pas du tout à Martigny, sauf une petite scène, hein, on l'évoquera probablement tout à l'heure. Vous nous avez dit, j'avais envie d'habiller des silences, les taiseux de la montagne, c'est un peu cliché, mais c'est une réalité.
C'est une réalité, il y a certaines, je dirais tous les mondes un peu ruraux sont assez taiseux, et puis finalement dans l'histoire on se rend compte que un certain personnage qui vient d'un milieu bourgeois est aussi confronté à ce silence. Il y a des choses qu'on ne dit pas, on met pas ses émotions, on ne parle pas de ses émotions, on n'exprime pas, ça ne sert à rien, cette question de l'utilité du mot. Puis finalement moi j'ai envie d'apporter toute l'émotion que la parole peut transmettre, les « je t'aime », alors je ne vais jamais le dire directement, tout est un peu suggéré, mais cette façon de dire ou de ne pas dire les choses. Oui.
C'est la vie d'une famille, des parents, des enfants qui traversent des drames, qui traversent les aventures de l'enfance aussi, parce que les trois petites filles sont même les personnages principaux de ce livre, que vous situez à la montagne. On n'a pas forcément d'endroit, il me semble,
si
j'ai bien lu, mais c'est la montagne, les peuples de la montagne, on va dire. Dans les années 1990, vous le précisez. Moi, je l'ai vu en quatrième de couverture, 1990. Oui. J'ai lu quasiment tout le livre en me disant, mais ça pourrait être en 1920, ça pourrait être en 1950. Ça peut être en 1990 parce que de temps en temps, il y a une petite référence, mais assez légère.
En fait, il y a trois indicateurs qui permettent de savoir que ça se passe exactement en 1993, dont un épisode qui se passe ici à la Fondation de Janada. Mais effectivement, moi, ce que j'ai souhaité, c'était brouiller cette question temporelle, brouiller le moment. Effectivement, il y a des moments où on peut se dire, mais ça se passe il y a 100 ans, comme ça se passe aujourd'hui. Et le but, c'était de montrer qu'il y a quelque chose qui est un peu universel, qui est intemporel, qui traverse tous les êtres humains. C'est les sentiments, c'est les deuils. C'est comment on se relève des deuils et comment on continue à exister.
On touche évidemment à des questions universelles, ce qui moi m'a fait penser à des grands romanciers. Je vous ferai ma petite liste à la fin, vous serez contente, vous verrez. Mais il y a cette idée à travers le temps. Je lisais, je me disais tiens, on est dans Ramu, et puis tout à coup en effet une petite chose qui mettait dans les années 90. C'est le dernier moment en fait, les années 90.
C'est ça. Pour moi, c'est le paradoxe.
Ce monde de l'isolement, d'un monde différent. Parfois, ça m'a choqué. Quand vous faites une scène avec des touristes qui photographient les petits-enfants qui sortent de la messe, je me suis dit, mais en 1990, encore ?
Mais ça pourrait être encore le cas maintenant, je dirais. Oui, dans certaines... dans certains villages préservés, avec certaines traditions, si vous allez à la fête Dieu à Savièse, il y aura des touristes pour photographier les dames qui défilent. Mais ce qui est intéressant...
Qui n'en seront pas forcément heurtés, d'ailleurs.
Non, pas forcément. Mais tout dépend du rapport et de l'approche. Oh. C'est toujours ça. Si on n'humanise pas son sujet, alors là, il y a un tout petit problème. Mais pour moi, les années 90, oui, c'est le moment clé, juste avant le début, l'apparition aussi de la téléphonie mobile.
Oui, Internet,
exactement.
Que vous décrivez une société, pas en marge, mais isolée du monde quand même, avec des référents différents. Quand quelqu'un vient de la ville, c'est le roman de la campagne. Ceux qui viennent de la ville sont forcément différents. C'est Heidi dans l'autre sens, en fait. Vous avez personnage qui vient de la ville et qui tout à coup affronte cette montagne, alors qu'Heidi part de la montagne et puis va à la ville.
Le trait d'union, c'est le quart postal, on va dire en termes techniques, postal qui crée le trait d'union, et il est très présent, il ouvre et il ferme la boucle du roman quelque part, de l'intrigue on dira, et voilà, c'est là que se passe le lien. Mais finalement le téléphone, c'est un téléphone fixe, on parle des journaux, donc il y a aussi énormément on voit que finalement cette famille n'est pas ignorante, elle lit les journaux, elle sait ce qui se passe, etc. Mais le regard de, pas forcément du citadin, mais de celui ou de celle qui vient de l'extérieur, est très jugeant, est plein d'a priori, en fait, sur l'ignorance acquise, en fait, de la population de montagne, et qui n'est pas le cas.
On peut peut-être revenir à ce dont on parlait en première partie, avec le gap qu'il peut avoir entre un manuel et un intellectuel, et les services qui peuvent se rendre, c'est le même.
Absolument.
Parce qu'il y a un regard de ceux qui viennent de l'extérieur, il y a aussi le regard de ceux qui sont là et qui, a priori, imaginent que ceux de l'extérieur, il y a l'aventure du chauffeur de bus, qui est séduit par la fille de la ville et qui se dit bah elle est pas pour moi quoi.
Exactement.
C'est pas possible, c'est elle vient de la ville, c'est une intello, etc. Oups, la première réponse lui indique que c'est cuit quoi.
C'est ça. Mais alors, moi, je trouve que le préjugé c'est pas toujours négatif. Le préjugé c'est un système cognitif qui nous aide à ne pas devoir redéfinir le monde constamment. Parce que si tous les jours je dois repartir de zéro et redéfinir toutes les choses qui m'entourent, je m'en sors pas, je deviens folle. Donc le préjugé, il a quelque chose de bien. On catégorise les choses pour s'organiser, pour se simplifier la vie. Mais il a son pendant négatif qui est on catalogue les gens et on ne les laisse plus sortir du bocal. Il y a quelque chose d'imperméable dans une certaine part du préjugé.
Et dans les deux sens, ce que vous faites remarquablement bien, hein, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas une population victime qui serait la population de la montagne, etc. Non, les clichés, les a priori, ils vont dans les deux sens. Et puis, bien courageux et bien méritants sont ceux qui arrivent à transcender, finalement.
C'est ça. Et puis, quelque part, il y a une forme aussi de critique du tourisme, parce que le tourisme, c'est une forme de consommation. Donc, il y a certaines personnes qui reviennent sans cesse au même endroit et puis qui apprennent à connaître les gens, etc. Mais il y a certains types de touristes qui vont dans un endroit pour consommer la culture locale et puis faire la photo et puis repartir et montrer la carte postale. Et puis c'est d'une certaine manière aussi le début du tourisme de masse, de ce tourisme un peu butineur où on va d'une fleur à l'autre et puis on s'attache pas à connaître réellement l'ancrage.
Bon, quand je disais que ça passe le temps, hein, et vous me l'avez confirmé dans votre idée, le rapport à la dureté de la vie de la montagne, là on a affaire à une famille avec un père brisé, hein, physiquement brisé. Ça peut rappeler d'ailleurs certains romans actuels, hein, sur le monde ouvrier, physiquement brisé à la fois par la tâche de la montagne, du paysan de montagne et la tâche de l'ouvrier, parce que double vie, hein.
Oui.
Pour s'en sortir, vous pétez le cliché des paysans qui ont vendu leur terrain pour devenir millionnaire. Non, si on veut un terrain, c'est pour faire l'année, quoi. Et on le fait à contre-cœur.
Il y a quelque chose que j'aimais beaucoup aussi dans cette approche que j'avais besoin de raconter, c'est que à force de faire tout au long d'une journée, ça prend énormément de temps de faire, surtout que le père de cette famille, il doit faire même deux fois. C'est qu'on n'a plus l'énergie de dire après. Et puis dire, ça demande beaucoup d'énergie. Et ce père, on s'y attache. Parce qu'on se rend compte qu'il n'en est, c'est pas un problème de capacité ou d'affection ou d'investissement personnel, c'est juste qu'il est complètement dépassé par l'ensemble des événements et puis des nécessités pour faire vivre sa famille.
Il y a un monologue très émouvant sur la fin du livre, hein, où le père attablé au bar, c'est de la pensée en fait, hein. Il s'adresse à sa famille, il s'adresse à lui-même, il adresse finalement son incapacité à communiquer, le fait que s'il va au bistrot, s'il boit un peu trop, c'est pour être seul, mais c'est aussi pour être entouré avec des gens, ça n'a peu d'importance, c'est les copains de bistrot. C'est un très beau monologue, je me contente de cela. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans votre livre, c'est le rapport à l'enfance, qui me ramène à des... je voulais vous faire votre panthéon, qui me ramène à Pagnol, qui pour moi est un grand, grand, grand écrivain, vraiment, par cette façon de mettre dans la bouche des enfants des mots qui ont à la fois une qualité littéraire, c'est ce que vous faites, et à la fois qui sont totalement crédibles dans le fait que des enfants ont pu prononcer ces mots ou avoir ces pensées-là. Vous avez particulièrement travaillé les mots des enfants.
Alors, Pagnol, ça me touche profondément parce que ça a bercé mon enfance justement, et tout d'abord les films, puis ensuite la littérature de Pagnol. En fait, je pense que c'est convoquer cette part d'innocence qu'on a encore tous en soi. Qu'est-ce qu'on dirait spontanément si on n'avait pas ce filtre social? Puis finalement, on les retrouve, les mots d'enfant. Donc, à l'écriture, c'était relativement simple d'aller convoquer des mots d'enfant parce qu'on les a en soi. C'est juste qu'on se réprime de les dire socialement parce qu'on sait que ça va très très mal passer. Et un enfant peut tout se permettre.
Des mots et des attitudes. Hein. Vous avez trois petites filles. Il y a Léonie, l'aînée, elle est assez raisonnable. Il y a celle du milieu, c'est une petite crapule. Hein. Elle est courageuse, elle est forte. Oui. C'est Marion. Et puis Lucie, qui est plus créatrice, rêveuse, un peu maladroite. Il y a une scène qui m'a presque tiré les larmes, je vous le dis sincèrement, parce que moi, j'ai vraiment ce rapport à l'expression de l'enfance, hein, qui me ramène à la mienne, probablement, enfin, certainement. C'est celle du milieu, Marion, qui protège beaucoup sa petite sœur et qui lui dit « T'inquiète, pour que tu ne te fasses pas embêter à l'école, je vais redoubler tout ce qu'il faut pour qu'on aille en même temps à l'école des grands. »
Oui. Alors, c'est vrai que c'est...
C'est vécu.
C'est, non, c'est même pas du vécu, mais c'est ce côté touchant. Alors, j'ai vraiment voulu, on va dire, alors là, c'est catégoriser trois caractères, mais aussi par rapport aux phases de la communication, sur comment on apprend à communiquer dans le monde. Et puis, la petite Lucie, elle est très innocente. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête, mais avec candeur. Mmh. Marion, elle a déjà compris, elle dit « ta gueule » au bon moment à sa petite sœur, parce qu'on ne fait pas ça, on ne dit pas ça, tais-toi, protège-toi. Elle est vraiment une armure. Elle est une armure pour elle-même, une armure pour la petite. Puis en même temps, elle a cette insolence, elle sait où elle va, elle sait le pouvoir des mots. Elle sait vraiment le pouvoir des mots, et d'ailleurs, certains adultes en font les frais.
Ouais.
Et puis, Léonie, elle a déjà choisi le silence. Donc, elle se tait en attendant de pouvoir fuir cette condition.
Bon, vous vous taisez aussi pas mal dans ce livre, hein, parce que finalement, tout ce que vous décrivez dans cette incapacité à dire, alors vous, c'est pas une incapacité, c'est réfléchi, évidemment. Vous nous dites possible suicide, vous nous dites possible violence conjugale, vous nous dites possible difficulté de parler, possible envie d'évasion, possible mésalliance ou mauvais mariage, disons, voilà, ou mariage brisé par la vie, tout simplement. Vous nous dites tout ça, mais toujours par petites touches, finalement. Ce que je disais du chauffeur de bus aussi, l'impossibilité d'être avec quelqu'un de la ville quand on est quelqu'un de la campagne, etc. Vous nous le dites par petites scénettes.
Alors, le but, vraiment, c'était de ne pas porter de jugement sur aucune des situations, de ne pas interpréter, parce que c'est ce qu'on fait tous, on juge, on interprète notre voisin, nos amis, notre prochain. Et puis, c'était le but de ne pas apporter de jugement, de ne pas faire de déclarations hâtives ou de sanctions hâtives, de dire voilà, c'est comme ça, c'est un mauvais père, c'est un bon père, c'est une bonne maîtresse, non, une mauvaise maîtresse.
D'ailleurs, le personnage du père est essentiel, évidemment,
oui,
et on est aussi entre... Bon, il va arriver un geste fatal, il va nous décevoir beaucoup... En même temps, on l'admire, ça bah, aussi...
Je pense que, par exemple, la question de l'alcool, elle est très importante dans ce livre, parce que c'est quelque chose qui, socialement, est très prégnant dans toutes les sociétés rurales. Et à aucun moment, je ne blâme ceux qui boivent dans le roman, que ce soit dans la fête villageoise, que ce soit le père. À aucun moment, c'est une maladie et c'est un fait. Cette personne est troublée par ce mal, et c'est un fait, et ça conditionne ses réactions. Mais jamais je ne me permettrai de juger cette personne de l'être.
Bon, il y a une certitude, en tout cas, c'est que vos mots habillent ces silences de la montagne. C'est, pour moi, c'est très, très, très réussi. Je vous dis, hein, bon, quand on me tire des larmes, c'est bon, j'achète. Je vous le fais vite, le Panthéon, parce qu'on arrive déjà au bout de cette émission, mais je vous ai parlé de Pagnol. Je pense à Giono, une façon de mettre l'universel à la campagne, hein, et puis Ramu, bien sûr, parce que de la même façon que Giono, l'universel à la montagne, là, pour le coup, et vous êtes dans cette tradition là et dans cet héritage là.
Merci, c'est touchant. Oui.
Merci à vous, Marlène Maurice. Escarpé, édition Favre. Il faut vraiment lire ce livre. On n'a pas parlé des illustrations de Pierre-Yves Gabiou, qui illustre la couverture, mais aussi certaines pages inquiétantes, hein, parfois assez sombres dans le roman. On se demande ce qui va se passer. Et puis on a un vrai plaisir de lecture. Merci.
Merci.